Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Ce soir, ici au studio de Transistor, on se retrouve avec Alexia, Nathan et Antoine. Bonsoir à tous les trois. J'espère que ça va en ce lendemain d'Oscar et de, comme d'habitude, la consécration, enfin, qui a été un Reddit un peu des précédents.
Oui.
Oui. Vraiment. Bref, de notre côté, on ne parle encore une fois que d'un film ce soir, mais finalement il fallait bien un épisode entier pour discuter de Dune 2 ou de Dune deuxième partie dans les faits, suite de Dune tout court, et qui précède, disons-le déjà, Dune Messiah qui sortira un jour. Lançons-nous donc, hein, sans plus attendre, penchons-nous sur ce film, disons-le d'emblée, de 2h46. Dans l'espace, une flopée de grandes maisons régies par des barons ou des ducs se partagent d'immenses territoires, des planètes en fait. Et entre ces maisons, une paix armée sous l'égide d'un empereur, Christopher Walken, figure de Léviathan qui n'hésite pas à diviser pour mieux régner. De fait, dans le premier film, que je vais résumer un peu longuement mais qui est nécessaire si vous n'avez aucune connaissance de l'univers au préalable, ce qui était mon cas, une paix armée sous l'égide d'un empereur qui est Christopher Walken. De fait, dans le premier film, il avait fait don à la maison des Atreides de la planète Arrakis, en lotant cette planète de ce fait à la maison des Harkonnen qui la contrôlait jusqu'alors. Ce faisant, il rendait les Atreides maîtres d'un territoire en fait impossible à maîtriser. Arrakis est une planète désertique, brûlée par un soleil de plomb ou deux, je sais plus s'il y en a un ou deux, habité par le peuple des Fremen, rebelle à toute domination et encline à saboter toute installation étrangère, et puis habité par de titanesques vers de sable, pour lesquels, cette fois-ci, je n'ai rien à expliquer, ce sont des vers de sable qui habitent dans la planète. Quel intérêt, alors, de contrôler Arrakis? C'est qu'il n'y a que sur son sol, dans tout l'univers, que l'on trouve l'épice. Une épice, oui, bingo, qui sert visiblement à tout. Hein, toute honnêteté, j'ai oublié ce à quoi ça servait précisément. Il me semble que c'est une source d'énergie, suffisamment en tout cas pour qu'existe ce dicton qui contrôle l'épice, contrôle l'univers. Là-dessus, nous sommes toujours dans le premier film, mais c'est important pour nos auditoristes. Donc la maison Harkonnen avec l'aval de l'empereur, lui-même influencé par la société secrète, religieuse et matriarcale du Bene Gesserit, la maison Harkonnen, qui sont vraiment très méchants, ils sont tout en noir et tout converge pour dire qu'ils sont pas gentils. La maison Harkonnen donc attaque les Atreides sur Arrakis et les anéantit, littéralement, c'est un génocide. Il ne reste plus personne, sauf le prince héritier, Paul, c'est Timothée Chalamet, et sa mère, Rebecca Ferguson, ce qui est quand même ennuyeux, que ce soit quand même les héritiers de la famille royale qui survivent. Peu importe, ils s'en sortent, et par un heureux concours de circonstances, ils parviennent à rejoindre un groupe de Fremen, qui a pour chef Stilgar, Javier Bardem, et groupe qui compte dans ses rangs Chani, Zendaya, que Paul a vu plusieurs fois dans les visions qui lui arrivent d'avoir, lui qui pourrait être le Messie attendu par une prophétie. Fin du premier film. Arrive donc le second, qui est la suite immédiate. Les Harkonnen ont repris le contrôle d'Arrakis, mais les Fremen, de plus en plus guidés par un Paul qui a pris de l'importance et le nom de Uzul, oui, les Fremen empêchent toute extraction de l'épice. Le baron Harkonnen, Stellan Skarsgård, met donc sur le coup son neveu psychotique, Frey Drotta, Austin Butler, je cite les personnages, hein, c'est pas mon avis. Si, quand même. Bref.
Il mange des gens, quand même.
Oui, il mange des gens, certes. Donc, il met le baron Harkonnen met sur le. C'est déjà suffisamment compliqué. Met sur le coup son neveu psychotique, Frey Drotta, pendant qu'à la tête de l'Empire, on est de plus en plus en proie au doute, manifesté notamment par Florence Pugh, qui interprète la fille de l'empereur. Dans les rangs Fremen, les signes sont de plus évidents que Paul est le Lissan al-Gaib, le messie qui rétablira je ne sais quoi, mais qui doit faire son rôle de messie, en gros. Mais lui, Paul, ne veut rien entendre, d'abord parce que Chani, qui entre-temps est devenue sa copine, ne croit pas à cette prophétie, ensuite parce qu'il continue d'avoir des visions qui lui prédisent le pire s'il devient ce messie. Et on parle pas du champ d'anatomie d'une chute. Mais sa mère, devenue de son côté une prophétesse parmi des Fremen qu'elle fanatise à la vitesse grand V, ne l'entend pas de cette oreille, pas plus que la sœur de Paul, qui n'est pour l'instant qu'un fœtus, encore à naître, mais cette condition ne l'empêche pas de discuter avec sa mère.
Louis au plein délire.
Je vous jure que c'est le film.
C'est vraiment écrit par Franck Herbert.
Heureusement qu'on a vu le film avant, parce que sinon on se demanderait...
Qu'est-ce que vous faites lundi soir à 19h17 dans le studio avec moi. Voilà, bon. Alors, ça, c'est le résumé. J'avais vraiment eu du mal avec le premier opus. Franchement, j'ai eu le souvenir d'avoir trouvé ça très 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 long, trop prise de tête, avec des acteurs et des actrices au jeu pour le moins inégal. Gros problème avec Chalamet, en l'occurrence. Et puis, le truc semblait très très satisfait de lui-même, très très... ouais, très très pompeux, en fait. Mais, avec le temps, ce souvenir désagréable, c'était suffisamment estompé pour que je ne garde que le meilleur quand j'en y pensais, c'est-à-dire les plans, l'ambiance, la qualité, et le talent tout de même de nous emporter dans un univers complètement étrange et étranger. Effectivement, Dune 2 a plutôt bien pris avec moi pour ça. Si j'ai quelques réserves sur le film, j'ai été franchement embarqué par sa proposition esthétique. Il se passe mine de rien plus de choses et je me suis moins ennuyé malgré une résolution un peu expéditive, peut-être. Timothée Chalamet a enfin des raisons de faire la gueule et de jouer donc sans émotion, parce que sa famille est morte quand même depuis, et donc l'insensibilité de son jeu est moins critiquable. Le tout prend une ampleur épique assez remarquable, peut-être pas assez lyrique néanmoins, et où moi en tant que spectateur je me suis trouvé emporté. Après, est-ce que j'en garderai quelque chose? C'est pas sûr, mais j'aime aussi ce grand spectacle qui se prend un peu au sérieux, cette immersion totale dans quelque chose de nouveau, de violemment nouveau. Alexia, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi pour ma part, contrairement à toi, j'avais bien aimé Dune 1. Je pense que c'était aussi dû au fait que je n'avais pas lu les livres, je connaissais pas du tout l'univers et j'avais été assez emportée, j'avais trouvé ça assez original. Après, j'aimais beaucoup la science-fiction, donc je savais que c'était un peu gagné en allant voir le film et effectivement j'avais été convaincue. J'avais effectivement trouvé ça un peu long, un problème que je n'ai pas retrouvé avec le deuxième opus. J'ai trouvé presque que les événements s'enchaînaient un peu rapidement vers la dernière partie du film. Par rapport au début qui était plus lent, qui suivait plus Dune 1, d'un coup en fait on s'accélérait et je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça alors qu'ils auraient peut-être mieux fait de mieux répartir le rythme sur l'entièreté du film. Donc honnêtement c'est seulement ces problèmes de rythme que j'aurais vraiment à reprocher aux deux films. Pour ce qui est des jeux de Timothée Chalamet et de Zendaya, pour moi j'étais assez convaincue. Après il est vrai que Timothée Chalamet n'a pas non plus une grande gamme de variété d'expression. Il est assez stoïque sur tout le film, ce qui était un peu dommage parce qu'il est quand même censé avoir un grand changement dans sa mentalité, sa façon de voir les choses à partir du milieu du film. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment cette rupture par ce personnage. On la voit beaucoup plus avec le personnage de Zendaya, avec les autres qui sont tout autour de lui, qu'avec Timothée Chalamet directement. Donc c'est un reproche qu'on peut lui faire. Mais après, j'ai quand même trouvé qu'il faisait son job, il le faisait bien. Et j'ai été à nouveau assez emportée et convaincue par cet univers.
Merci beaucoup Nathan.
Sacré budget pour un téléfilm. J'avais fini Dune 1 en me disant que ça faisait cher la bande-annonce et la deuxième partie m'a fait exactement le même effet. Alors je savais pas que un troisième opus avait été confirmé, mais enfin ça paraît très clair hein, quand tu vois la fin. Moi j'ai pas eu la chance comme vous de voir le 1 il y a assez longtemps pour que les mauvais souvenirs s'estompent et que je garde que le positif. En fait je l'ai rattrapé vendredi dernier la première partie sur ma télé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment été choqué par à quel point j'ai pas aimé. J'avais pas particulièrement d'a priori sur le film. Il y avait eu évidemment très bons retours. Et pour autant, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper générique, très classique, assez banal. Loin d'être médiocre, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus mid dans le genre, en fait. Et ce, même visuellement. Enfin, j'avais beaucoup entendu dire que c'était unique et révolutionnaire esthétiquement. Et franchement, pour l'instant, je parle du 1. À part quelques beaux plans, globalement, c'était très ordinaire. Enfin, il filme du sable, quoi. Je trouve que ça manquait de propositions plus originales et d'un peu plus de caractère que la deuxième partie, il faut le dire, arrive par moments à insuffler. Mais franchement, globalement, des films de SF de ce début de siècle comme Mad Max, Fury Road, Interstellar, Rogue One, même le très nul Star Wars 8 ou même Blade Runner 2049 de Villeneuve aussi, n'ont rien à envier au visuel de Dune. Et pourtant, je les porte pas tous dans mon cœur. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais après avoir vu la première partie. Donc autant j'avais pas d'a priori avant de voir le 1, autant là, j'étais assez remonté et... Enfin, je l'ai vu le soir même, le 2, donc vraiment, j'étais
pas... Ah oui, t'as passé 6 heures...
J'ai passé 6 heures sur Dune, et c'était pas un bon moment. Vraiment, je recommande pas le voyage. J'ai trouvé ça...
C'est méta, hein.
En fait, je suis un peu... Non, mais je suis un peu dur. Franchement, j'en rajoute parce que j'ai pas aimé, mais honnêtement, c'est un très bon blockbuster de SF. mais simplement s'agirait de pas en faire trop. Et quand je vois genre des groupies de la fanbase toxique de Dune ou de Villeneuve dire que c'est le film du siècle, enfin franchement faut arrêter, ça reste très classique. Et bon, là je pense que je parle que pour moi parce que c'est un sentiment qui est pas très partagé, j'ai l'impression, mais je l'aurais oublié la semaine prochaine, premier degré, je genre vraiment. Donc pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, mais globalement j'ai pas aimé. Voilà.
Bah merci, pour ça de clarifier. Antoine.
Ouais, je suis assez d'accord avec Nathan, en fait c'est hyper générique. Alors c'est standard, le 1 c'était une succession de fonds d'écran Windows, très, très poli, hein, vraiment, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'avait fait Villeneuve, bah, tu as cité dans Blade Runner 2049 qui pour le coup était vraiment une claque visuelle, ouais, et où sa mise en scène hyper froide était à peu près justifiée dans cette dystopie cyberpunk. Là, c'est juste... c'est plat, quoi. C'est plat, et c'est ce que je reproche au film. C'est qu'on parle quand même, tu vois, quand on t'a entendu faire ton résumé, on parle d'un fils de duc qui a perdu sa famille et qui va faire un djihad intergalactique. C'est écrit comme ça dans le livre. Hein. Et Villeneuve n'arrive pas, et pourtant, il y a du matériel, hein, à en faire une épopée épique, vraiment épique, où il y a des tentatives, comme tu disais, lyriques, vraiment mythiques. Et en fait, finalement, on va juste avoir un film d'action avec un Timothée Chalamet qui prend de la drogue et qui a quelques fulgurances. Voilà. J'ai un peu plus aimé la dernière demi-heure, justement, quand il s'assume en rôle de Messi, où là, vraiment, Villeneuve va montrer des foules surexcitées. On va avoir une sensation gigantesque qui va un peu arriver, mais avant, c'est un film d'action lambda, quoi. C'est Sicario, sauf que c'est plus le Mexique, c'est Arrakis, quoi. Non, mais c'est... Il a fait le même film, quoi. C'est ce que je reproche à Villeneuve dans Dune, quoi. C'est vraiment, il a pas eu d'ambition artistique. Il a fait quelque chose de convenu qui allait plaire à beaucoup de monde et profiter un peu du cachet des acteurs. Enfin, je suis très déçu parce que, enfin, moi j'aime bien Dune le livre. Mais,
Alors moi sur le côté générique du tout. Ça se sent effectivement, moi c'est, si je commence par les réserves que j'ai, après j'ai vraiment quand même plutôt bien aimé mon expérience, donc promis, cette fois-ci je dirais du bien d'un film, mais c'est le niveau des actrices que moi j'ai un problème, j'avoue, mais même si déjà j'ai plus trop de mal avec Chalamet, il m'emporte absolument pas comme il devrait le faire en tant que, oui voilà, Alexia tu disais ce shift dans, enfin, vraiment de sa personnalité au bout d'un moment du film, c'est exactement ça, tu le vois plus dans les autres autour de lui que lui-même qui continue à faire la gueule. Mais ça ne me gêne plus comme ça me gênait vraiment dans le premier film. Je trouve que Zendaya, bon, joue toujours très mal.
Oui.
Et puis, avant, on la voyait très peu dans le premier film. Mais là, je trouve qu'elle transmet rien. Elle a une palette de deux émotions qui sont...
Voilà. Oui.
Enfin, je viens de l'animer.
Bien à la radio. Je
bon, bref.
Non, mais elle n'est pas contente, quoi. Voilà.
Elle n'est pas contente ou bien elle a un petit sourire entendu, ce qui est quand même limité. Il y a des fois, elle place vraiment juste mal ses accents dans ses phrases. Ce qui est dommage parce que son histoire avec Paul est au moins au début peut-être la moins toxique et la plus reposante. Je trouve que Rebecca Ferguson, elle est un peu sous-employée alors qu'elle portait vraiment le film à elle seule, oui, le premier. Dans le rôle de Dame Jessica, là, elle vire juste en full sect guru mode. Tout à coup, il y a Anya Taylor-Joy, bon. Florence Pugh est là pour porter de beaux costumes. Qui sont très très beaux d'ailleurs, c'est effectivement vrai. Mais on la voit très peu et je trouve moi qu'on ne voit pas assez Christopher Walken, je trouve qu'il compose vraiment pour le coup un empereur brisé excellent, on voit pas suffisamment qu'il est vraiment miné par le regret et moi je trouvais dans les idées puissantes du film que s'il y avait ce contraste entre sa mine défaite en chemise de nuit et cette armada de suréquipement technologique,
oui,
il y a une humanité au personnage que j'aime vraiment beaucoup cet acteur mais qui manquait en fait.
En fait je pense qu'il y a un problème de choix, c'est à dire qu'il préfère nous montrer un raid qui dure 3 heures sur un espèce d'engin qui va miner l'épice. En fait, il perd du temps pour montrer des choses qui, à mon sens, auraient été beaucoup plus intéressantes. Typiquement, ce que tu dis là, juste voir l'empereur un peu gâteux qui dit « mais j'ai raté complètement ma politique et voir l'échec de ce qu'il fait, quoi. » Et à la place, on voit Zendaya avec un lance-roquette tiré sur des Harkonnen, quoi. C'est ce que je reproche au film, c'est on perd tout le mystique du livre qui est une société, enfin, qui raconte une société tellement avancée technologiquement qu'elle revient à une féodalité en fait, que je trouve absolument fabuleux comme idée et qu'on voit pas du tout dans Dune.
Ouais, je suis assez d'accord et je trouve que ça nuit au sens après global du film. Enfin moi il y avait des fois où j'avais presque du mal à suivre, je me suis dit ok, mais en fait là ça va très vite en fait, les enchaînements, les dénouements. Et je trouve que c'est peut-être aussi à cause de ce genre de plan qui était peut-être trop long, qui se centre pas assez sur des personnages secondaires comme celui de l'empereur, et du coup on comprend pas bien après les motivations parce qu'on s'est pas assez centré sur ces personnages effectivement.
Ouais, moi je rejoins complètement ce que vous dites sur le fait que je trouve que la structure est archi chaotique, genre c'est très déséquilibré, il y a plein de moments qu'on te vend comme des espèces de climax qui sont censés être des storylines hyper importantes et qui sont d'un coup complètement éludées, par exemple son baptême du feu de nuit quand il doit traverser le désert de nuit, alors tu le vois partir, et puis la scène suivante apparemment il est revenu.
Oui, c'est vraiment okay, Jésus 2, c'est le censé... retour des inconnus.
Mais c'est... Oui, c'est vraiment Jésus 2.
Alors que juste avant on lui dit, soit tu survis, et ça veut dire que t'es des nôtres, soit tu meurs. Donc il y a un enjeu quand même. Tu vois. Et là finalement, on voit pas ce qui se passe. Pareil, le moment où il part au sud, c'est complètement incompréhensible. Je trouve d'abord il veut pas y aller, puis d'un coup finalement il est en chemin, et puis après finalement il y est, mais il veut pas boire un truc. Puis finalement, plan d'après, il est dans le coma parce qu'il l'a bu. Enfin, tous les enjeux les plus importants qui entourent, et notamment le personnage principal, je trouve, sont complètement éludés. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas assez intéressants visuellement pour l'esthète qui est Denis Villeneuve, mais en tout cas, ça donne l'impression qu'il y a des personnages qui sont très. Enfin, dans les. Les arcs narratifs sont très bâclés, je trouve, et coupés dans leur élan. Et du coup, les personnages, ça devient des personnages types très génériques, et ça se ressent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils jouent tous mal, parce qu'il a quand même un très bon casting. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a très peu qui sortent du lot. Et je pense que ça c'est parce que ça se ressent dans le jeu. Il y a Javier Bardem, par exemple, qui est un sidekick drôle 10 minutes, et puis après, il devient juste chiant. Enfin, le Lisan Algaib, ça, c'est un running gag qui devient vite lassant. Chalamet, moi, je continue à le trouver insipide, vraiment. La seule exception, je trouve, c'est Austin Butler, qui lui est vraiment. Mais il est vraiment unique, quoi. Ce mec est très fort et il dynamite le film. Et je trouve que là, les scènes où il arrive sont vraiment des vrais souffles. À noter qu'il lui aura fallu devenir un psychopathe pour perdre enfin la voix d'Elvis. Hein, c'est quand même assez marrant.
C'est ça qu'il fallait à Marion Cotillard, en fait, pour qu'elle arrête de faire Edith Piaf.
Mais même son personnage à lui, en fait, il est très bien. Et sa scène d'introduction, la scène de l'arène, visuellement, elle est exceptionnelle.
Je suis d'accord, c'est ça que j'allais en parler.
Au fait d'armes de tout le diptyque en la matière.
L'utilisation du noir et blanc.
Ouais, carrément. Et puis justifié avec le fait que. Enfin, avec la planète, la lumière et tout. C'est vraiment hyper intelligent. Et c'est ce genre de proposition qui manque, je trouve, dans le reste du film.
Mention spéciale, cependant, au public qui m'a beaucoup fait rire. Qui était une sorte d'animation très, très étrange tout autour. Avec une scène qui était censée être glorieuse. Et avec. Tout un tas de plans où à chaque fois il les filme pendant longtemps, je n'ai pas compris comment il a pu faire un public pareil. Enfin bref, c'était encore un plan qui m'a surprise.
Ouais, mais il y a des trucs bizarres dans tout le film de toute façon. Mais...
Ouais, c'est un élément un peu curieux. Mais sinon, pour le reste, vraiment.
Mais ouais, sinon, cette scène est vraiment bien. Mais même ce perso qui est pourtant très bien introduit et qui a une vraie personnalité, beaucoup de caractère et tout, bah même ce personnage-là, il est trop vite expédié et il est relégué à un rôle qui devient vite caricatural quand même. Et qui, dans la scène de fin, il perd toute envergure en fait. Genre. Et en fait, tous ces problèmes de structure et de jeu aussi, par conséquent, ça fait qu'il y a des pseudo-storylines subsidiaires qui deviennent hyper fades et génériques, encore une fois, et donc complètement dénuées d'intérêt. Par exemple, il y a tout l'arc de la revanche du personnage de Josh Brolin, qui réapparaît un moment et il veut venger Oscar Isaac en tuant le... Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref.
Voilà. Gérard Depardieu.
Ah oui, je vois, la bête. Non, je crois qu'il s'appelle la bête, un truc comme ça. Genre, le mec chauve, là.
Ah,
enfin, ils sont tous chauves. Mais...
Non, pardon, Gérard Depardieu, c'est le baron Harkonnen, c'est ça.
Ah oui, okay, d'accord.
Ça marche aussi, parce qu'ils sont à peu près la même. Mais en gros, par exemple, cet arc-là, mais Osef, mais fulgurant. Enfin, on en a rien à foutre le moment où il arrive enfin à se venger. Bah, il n'y a aucune implication émotionnelle parce que ça n'a pas été assez amené, ça n'a pas été assez construit. Et qu'il y a un gros manque de subtilité, je trouve, qui fait qu'on a zéro empathie pour les personnages. Enfin, moi, j'avais zéro empathie pour aucun des persos. Et enfin bref, voilà.
Mais vous êtes en train de me convaincre que j'ai pas aimé. C'est positif.
Non, mais.
Mais sur par exemple. Bon, alors, effectivement, dans le problème majeur du film, c'est les personnages, ceux qui les interprètent et leur construction. Mais l'esthétique du film, elle ne se résume pas que à la scène de l'arène. Moi, j'avoue que devant un immense écran, j'ai vraiment. Pris un grand plaisir à le voir. On va avoir des choix de couleurs qui sont assez exceptionnels ou des plans qui sont un peu là pour le plus le pur plaisir de l'œil, même s'ils peuvent avoir un sens déjà. Puis, de toute façon, voilà, moi je boude pas, j'ai pas boudé mon plaisir. Je pense par exemple au grand bassin des âmes là, avec le monde qui se reflète à l'envers, ce côté spéculaire qui est vraiment beau. Puis je trouve qu'il y a un travail sur les symboles qui est assez impressionnant. Les toutes premières images, bon, j'avoue que j'ai un peu oublié le film et que j'ai repris mes notes hier. Mais j'avais noté que ça ressemblait à des fourmis et la bim, il y en avait à la fin. Donc j'étais content. Des vraies fourmis, j'entends. Ou bien des choses qui résident plus dans le contraste, comme des jeux de regard ou cette scène avec putain d'ogives nucléaires qui sont là, dressées, phalliques, immenses, et
oui,
avec la toute petite taille des personnages en bas pour cette espèce de manque de prise sur leur destin.
Ouais, justement, mais pour les ogives nucléaires, il y a... Comment dire, c'est comme ça dans les bouquins, mais c'est plus intéressant dans les bouquins dans la mesure où quand ils vont utiliser les armes nucléaires, ça va avoir vraiment des conséquences sur l'environnement. En fait, ils vont péter les montagnes qui entourent la capitale, ce qui fait que alors, il va y avoir les tempêtes d'Arrakis qu'on voit très peu dans Villeneuve, qui vont vraiment tout détruire. Et c'est ce que je reproche à Villeneuve, c'est qu'on a l'impression que les personnages agissent, mais comme dans un jeu, en fait, il n'y a aucune conséquence et aucune gravité des conséquences. Et pourtant, il essaie de le montrer. Hein. Il nous le dit. Regardez, si je fais ma guerre sainte, il va y avoir des milliards de gens qui vont mourir. Et finalement, ce qui va le convaincre, Chalamet, c'est de passer un coup de fil à son ami mort qui va lui dire « Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et finalement, il le fait. Et finalement, il n'y a aucun enjeu, aucune gravité, aucun poids de dire bah, « Je vais prendre la responsabilité de la guerre, quoi. » Et on ne le voit pas. Malgré le fait que, comme tu dis, la scène avec les ogives, moi j'étais en mode, oui, il y a des ogives, là, putain, ça va péter, ça va être énorme. Et en fait, il me prive de ce spectacle-là, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres choses intéressantes visuellement. Par exemple, toute la dernière demi-heure est quand même assez cool. Le moment où ça décolle, quoi. En
vrai. Oui, mais ça...
Parce que sinon, c'est très déséquilibré. Moi, j'ai quand même trouvé ça excessivement long. Hein. Enfin, je me suis vraiment ennuyé pendant les deux tiers du film. T'as un peu l'impression qu'il y a une stagnation parce qu'il faut remplir le trailer. Mais sinon, cette fin-là, effectivement, marche assez bien. La scène du dernier duel, notamment, avec le contraste...
Le
contre-champ
soleil, ouais.
Avec le coucher de soleil est vraiment hyper... Enfin, très stylé. Et d'ailleurs, dans tout le film, les chorégraphies combat sont assez impressionnantes. Ouais. C'est vraiment bien foutu, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'a quand même bloqué Enfin, tu parles du fait que c'est sans doute mieux dans le bouquin. Je ne l'ai pas lu du tout.
Les bouquins, je les ai lus quand j'étais au collège. Mais du coup, je pense que j'ai un affect... C'est pas très bien écrit. C'est un peu longué. Mais il y avait des bonnes idées, comme la féodalité dans l'espace. Je trouve ça fabuleux.
Ouais. Mais de toute façon, je pense que... En fait, moi, j'ai pas lu les livres, encore une fois. Mais j'ai l'impression que c'est pas une très bonne adaptation, en vrai. Genre, enfin, parce qu'il y a plein de trucs qui passent sans doute beaucoup mieux quand ils sont développés sur je sais pas combien de pages. Typiquement, le personnage d'Austin Butler... par exemple, il a sans doute beaucoup plus de développement et même la fin de sa trajectoire ici arrive très abruptement, alors que dans le film, dans le livre, du coup, ça doit être plus cohérent. Et du coup, il y a plein d'enjeux comme ça qui, je pense, paraissent énormes dans le livre, qui là paraissent complètement dérisoires. Par exemple, le reveal de l'ascendance du personnage de Timothée Chalamet.
Ah oui.
Mais j'ai trouvé ça complètement inoffensif, quoi. Franchement. Et on a beau souligner à quel point Star Wars aurait plagié Dune, etc. Ici, Dune souffre vraiment de la comparaison avec le « Je suis ton père » de Star Wars 5. Parce que ici, ça, c'est vraiment en mode « Ah, ok ». Et en plus, après, ça ne revient pas. Donc,
oui, non, mais on...
Vraiment... Et d'ailleurs, le personnage... Enfin, il y a un de mes gros regrets aussi du film, c'est que moi, j'avais plutôt bien aimé le perso du Baron dans le 1. Je trouvais que c'était un vrai bon antagoniste, bien introduit, etc. Mais il fallait qu'il ait un développement un peu dans le 2, quoi, enfin, qu'il soit plus présent, etc. Et là, il devient insipide, je trouve. Franchement, il devient complètement apathique, inoffensif. C'est l'antagoniste le plus faiblard de la science-fiction moderne. Franchement, 7 heures de maquillage par jour pour 5 minutes à l'écran et le charisme d'un méchant des aventures de Scooby-Doo, le ratio est pas bon. Enfin, vraiment. Et soi-disant, c'est volontaire de présenter le baron comme le grand méchant dont on découvre finalement qu'il est finalement pas vraiment dans le livre, ce qui est cool sur le principe. Mais en réalité, quand tu l'adaptes au ciné, dans les faits, c'est raté. Enfin, ça bloque parce qu'il n'y a pas assez d'envergure, il n'y a pas assez de développement et que Denis Villeneuve, il le présente vraiment et il lui réserve un traitement archi-conventionnel selon les canons très codifiés de la SF et le manichéisme qui caractérise son adaptation, ce qui fait que le pseudo-renversement à la fin de finalement c'était pas lui le grand méchant, c'était l'autre, bah en fait ça marche pas hyper bien, et aussi parce que la trajectoire de Paul Atreides manque clairement de nuances dans l'évolution, je trouve. Mais Paul et sa mère d'ailleurs deviennent tous les deux des génies du mal et des dictateurs en puissance d'un djihad sanguinaire en l'espace d'un instant, avec moins de cohérence et de construction qu'Anakin dans la prélogie Star Wars, c'est pour dire. Donc, par conséquent, zéro empathie pour eux, caractérisation foireuse, c'est symptomatique de Villeneuve, je trouve. Enfin, en tout cas, ça correspond parfaitement à ses propos d'il y a quelques semaines. Donc voilà, et ça je trouve que tout de suite ça bloque le, même si le film était magnifique visuellement etc, ce que je trouve qu'il l'est, mais toute proportion gardée, bah s'il n'y a rien d'autre auquel se raccrocher, ça veut dire que bah, son espérance de vie est équivalente à sa durée d'exploitation en salle, parce que dès que tu le vois autre part que sur un grand écran de cinéma, il n'a plus aucun intérêt, et ça bah, ça me pose un peu problème.
Oui, je suis entièrement d'accord. Bah, typiquement il y a quelque chose qu'on voyait un peu plus dans le 1, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est l'utilisation de la voix. Cette capacité qu'ont les bah voilà, tu vois, tu t'en souviens pas. Alors c'est quand même enfin
normalement ah, on... en mode de téléport, enfin
ouais, voilà. Oui. Ouais, tu peux techniquement, si je suis dans l'univers, faire n'importe quoi à quelqu'un, enfin, je peux le convaincre de se suicider, ils peuvent tuer avec un mot, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé dans l'adaptation de Lynch, et pas là. Cette idée que Paul peut tuer simplement en te parlant, et c'est central dans l'univers de Dune, il en l'utilise un peu dans le 1. C'est au centre de l'adaptation de Lynch, et j'en reviens à dire qu'il part du mystique et du mythique, les deux à la fois, pour en faire un film d'action lambda. Voilà, c'est un film d'action, quoi. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Et c'est très triste, en fait.
Après, je suis d'accord, mais ça reste quand même un film d'action bien fait.
Oui, mais enfin après.
Je trouve ça quand même un peu brutal comme jugement final sur Dune. Même si je suis d'accord, effectivement, on perd le côté. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui auraient eu beaucoup d'intérêt, qui ont été laissés de côté. On a parlé de pas mal, mais il y a quand même eu des bons éléments. On a parlé des chorégraphies d'action qui sont très bien faites. Moi, je suis une très grande fan de films d'action.
Oui, mais
j'avoue que j'ai quand même beaucoup apprécié toutes ces scènes de combat qui étaient très belles. Il y a eu des scènes fortes. On parlait par exemple du personnage du baron Harkonnen. Moi, j'ai été frappée de voir cette scène où il est forcé de s'agenouiller devant l'empereur. Voilà, c'est vrai qu'on l'a vu que 5 minutes, mais j'ai trouvé quand même que celle-là était bien faite. Moi, ça m'a quand même frappée.
Ouais, mais alors, ouais. En termes d'action, je trouve ça pas si bien. Enfin, c'est un bon film d'action, mais si tu veux, niveau film d'action, si tu veux voir un spectacle, tu verras Mission Impossible, quoi. Enfin, ouais. Tu vas pas voir Dune. Enfin, c'est.
C'est sûr, mais c'est. C'est quand même dans un contexte différent. Et puis, Mission Impossible, voilà. C'est incomparable.
Ouais, mais encore une fois. Je trouve que même quand le baron s'agenouille, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple, une série télé comme House of the Dragon, je sais pas si vous voyez la scène où le... À un moment, il y a une scène où il y a un vieux roi croulant qui met 2 minutes, 3 minutes à marcher sur son trône. Avant d'y arriver, il tombe 3 fois et tout le monde le regarde, personne fait rien parce que c'est le roi, on veut pas le toucher. Bah, c'est Joe Biden, mais avec des accents de Shakespearean, tu vois. Donc, c'est, d'un coup, t'as un truc, tu vois. T'as une proposition esthétique qui est intéressante. Là, il s'agenouille et ça dure 2 minutes. À peine, 1 minute. En fait, à chaque fois qu'il a une bonne idée, et je pense qu'on est un peu d'accord avec, là-dessus avec Nathan, à chaque fois qu'il a une bonne idée, il faut qu'il passe à autre chose parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Et ce qui fait qu'on. Bah, en fait, il aurait fallu en faire une série, quoi. Enfin.
Oui, je suis assez d'accord là-dessus, d'avoir plus de temps de film. Mais malgré tout, je trouve que peut-être que on... Je suis d'accord avec vous sur tous ces détails. Tout ce que vous dites, en fait, je suis d'accord, mais je peux pas m'empêcher de me souvenir que moi, en sortant du film, bah, j'ai bien aimé. Oui. Et j'ai quand même passé une bonne expérience. Et je suis quand même sortie et j'ai dit à lui, bah, écoute, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça beau et je suis quand même rentrée dans le truc, tu vois. Mm. Et même si tous ces défauts, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'ils existent et honnêtement, j'ai pas de contre-argument à vous opposer. J'ai quand même une bonne expérience à la fin et au final, c'est un peu ce que j'attends d'un film comme ça, même s'il y a beaucoup d'aspects décevants.
Oui, c'est ça. Si on reprend par exemple, je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que par exemple, si on reprend le film de la semaine dernière, les arguments étaient bons pour le défendre, mais moi, en tant que spectateur, j'ai vraiment passé un mauvais moment. Et là, en l'occurrence, je suis sorti. J'avais effectivement. Alors, j'étais un peu frustré du peu de scènes d'action parce qu'on a dit c'est le dernier tiers du film et encore. Mais j'ai vraiment trouvé des propositions intéressantes. On n'a pas beaucoup parlé, mais du propos politique du film aussi. Je trouve qu'il y a un peu moins de gros, ben alors ça c'est mon avis, de gros sabots que l'Empire de Star Wars. C'est un petit peu plus subtil, autant que le permet le cadre du blockbuster. Voilà, parce que là il semble indiquer que bon, ben c'est cette structure impériale même de Léviathan qui présente quand la narration commence, qui porte en elle ce chaos en fait. On voit pas tant les régimes totalitaires que c'est devenu à l'œuvre, on les voit assez peu finalement, qu'on ne comprend qu'ils reposent que sur un état de guerre permanent. Et dans le film, ça se traduit en images avec plus ou moins de subtilité, avec ce gros héritage des films de propagande nazie de Leni Riefenstahl, qu'il s'agisse du Triomphe de la Volonté pour la Reine, on en parlait, enfin plutôt les Dieux du Stade pour la
plutôt
Reine.
Les Dieux du Stade, ce que j'ai
voilà. Ou plutôt donc les gros rassemblements Harkonnen au début du film pour donc voilà ces films des congrès de Nuremberg. Les plans d'ouverture et de conclusion d'ailleurs sur les tas de cadavres brûlés convoquent évidemment une vraie imagerie génocidaire qui est assez forte quand même, ou lorsque Rabban les traite de rats et qu'il faut en gros agir en conséquence pour reprendre les termes d'un ministre de la Défense d'un pays que je ne citerai pas. Mais de façon moins nette, il y a une interrogation du militaire même en fait qui se dévoile dans tout le film. Si je reprends des travaux comme ceux de Farocchi, de Virgilio, on peut tracer des parallèles sur les images au hasard des réfugiés, des bébés en sang qu'on voit quand même dans le film, qui sont des images qui sont fortes et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu parlais d'après-logie Star Wars, c'est pas les enfants de l'Académie Jedi où en gros tu vois juste, tu vois pas ce qui se passe. Là, tu vois quand même des bébés ensanglantés, ou quand on est en POV dans l'hélicoptère avec des images de la guerre en Irak par exemple. Et là je trouve que le film fait des propositions qu'on voit pas souvent dans les blockbusters hollywoodiens et qui moi m'ont en plus de du côté film d'action que moi je voulais bien et puis qui moi m'ont emporté et qui ont en plus du côté aussi se prendre au sérieux qui est quelque chose que j'ai tendance à reprocher au film en général mais que bon là j'étais content de qu'on soit pas comme dans les Marvel que j'aime pourtant énormément à me dire à chaque fois c'est une blague
Il y a un peu ça quand même à des moments hein, quand il y a Javier Bardem qui est en comic relief toutes les 30 secondes
mais ça c'est la vie de Brian I'm not the Messiah, he's the Messiah c'était amusant voilà on rigolait franchement
j'ai rigolé la première la deux premières troisième je suis en mode ça va on a compris quoi enfin c'est non mais tout ce que tu dis, je suis d'accord. Non mais attends, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec les propositions. Je trouve que c'est des bonnes idées, mais encore une fois, ils ne les exploitent pas.
Ah, je suis d'accord avec ça.
Ah ouais.
C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est effectivement tout ce qui est action et blockbuster est très bien fait et très bien réalisé. Mais le problème, c'est que ça arrive trop tard dans le film et ça occupe pas une place assez importante. Je trouve il y a quand même avant ça une bonne heure et demie, voire deux heures où moi je me suis bien ennuyé. Et si, à l'inverse, il veut équilibrer le côté blockbuster avec quelque chose de plus profond, effectivement un propos politique, ou même juste sur le développement de ses personnages, leurs relations, etc., je trouve que pour le coup, c'est vraiment raté de ce point de vue-là. Et du coup, il y a un peu cet entre-deux, et c'est pour ça que je parlais de déséquilibre, c'est que je trouve qu'il y a quand même un souci de ton qui fait que soit ça commence trop tard, soit ça... je sais pas, j'ai eu un peu de mal, mais après j'entends complètement ce que vous dites sur le fait que le contrat est quand même partiellement rempli, ça c'est évident, et il y a des scènes qui sont vraiment incroyables visuellement, globalement c'est très impressionnant, c'est spectaculaire, j'ai noté d'autres, mais des petits détails qui m'ont un peu embêté. Alors déjà, c'est encore plus une unpopular opinion que de dire qu'on n'a pas aimé Dune 2, mais moi la musique de Hans Zimmer,
ça c'est horrible,
infernal.
Ah, elle est omniprésente, vraiment.
Mais moins dans le premier que moins dans le deuxième que dans le premier, pardon.
Mais à des moments, ça devient comique. Hein, franchement, à chaque fois qu'il catch Chalamet et qu'il y a la voix qui crie derrière. Ah ça, c'est...
Non, mais en plus, avec Antoine.
Pensez à notre spectateur qui veut qu'on équilibre le son.
Merde. Avec Antoine, on sort d'un cours sur Hans Zimmer et ça n'a pas réconcilié avec lui. Et franchement, là, moi, j'avais juste envie de dire, mais. Enfin, laisse un peu respirer l'image. En vrai, c'est assez fatigant. Mais et puis les fondus au noir, quoi. Mais merde. vous le savez peut-être, j'ai une névrose avec ça. Mais alors, dans les films de SF, ambitieux visuellement et tout, c'est là que ça fait le plus cheap. Je trouve vraiment le contraste est terrible. Donc vraiment, je sais pas. Reprends les transitions de Star Wars.
Le truc PowerPoint.
Oui, voilà. C'est ça. Demande les copyrights, les droits d'auteur à George Lucas. Tu reprends ces transitions et ça marche très bien. Enfin. Voilà, donc ça c'est les derniers petits bémols que j'ai sur le film. Après, globalement, c'est moins sur le film en soi, mais c'est une petite parenthèse, c'est que je trouve qu'on est un peu obligé de mettre le film en perspective avec les propos de Denis Villeneuve d'il y a quelques semaines. où il avait dit que le cinéma était vicié par la télé ou le théâtre à cause de l'omniprésence des dialogues et que lui, les dialogues, on s'en foutait en gros, ce qui comptait c'était l'image. Bon alors déjà, ça se voit que Denis Villeneuve ne connaît rien au théâtre pour dire ça, parce que franchement c'est pas très brechtien comme philosophie, faut lui offrir le théâtre post-dramatique de Lehmann, enfin bref. Mais je trouve que ça révèle vraiment quelque chose de plus large et qu'on voit vachement dans le film et que la double expérience, voir le premier sur ma télé, voir le deuxième sur un écran de cinéma, vraiment ça m'a fait sauter ça aux yeux, c'est que c'est très beau, c'est très ambitieux, c'est très spectaculaire, c'est très soigné, mais dès qu'il s'agit d'écrire des personnages, dès qu'il s'agit d'écrire des histoires avec des enjeux et une implication émotionnelle forte, et même des dialogues, bah, il vaut pas forcément mieux que France 2, je trouve. Et même filmer ces acteurs, d'ailleurs, je me rappelle encore une des premières scènes de la première partie qui m'avait marqué, parce qu'on avait un champ contre champ hyper grossier dans une scène de négociation qui était hyper importante niveau tension, et où en plus les fonds verts étaient cramés à 200 km. Enfin, vraiment, t'as des moments où tu te dis qu'il s'est pas filmé des gens, et ce qui est con, parce qu'à l'inverse, quand il filme des dunes, bon, bah, c'est plutôt joli, même si ça devient lassant pendant 3h30, mais c'est pas si mal.
2h30.
Donc, imaginez Denis Villeneuve à la dune du Pila. Ouais, vraiment. Je fais un arrêt cardiaque, quoi, genre.
C'est vraiment l'inverse d'Anakin. I like ça.
Ah, j'ai vu un tweet, il disait ça. Genre, Dune, c'est vraiment la prélogie Star Wars si Anakin aimait le sable. Je trouvais ça très drôle. Et c'est assez vrai. Mais donc, en gros, voilà, je trouve que ça montre qu'il sait pas trop écrire des versos et que. Dans un film de cette ampleur-là, alors évidemment, c'est compensé par le côté spectaculaire, le gigantisme visuel, etc. Mais si dès que tu quittes l'écran de cinéma, bah, tu perds ce côté-là, bah, t'as plus rien à lequel te raccrocher. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça fait des films qui sont vite pas très intéressants.
Ouais, en fait, je trouve que moi j'étais assez. En fait, pour le mot, pour résumer, c'était frustré parce que je voulais vraiment voir quelque chose de jouissif. Enfin, vraiment, moi j'imaginais genre une sorte de Timothée Chalamet comme dans Jésus, dans le Pasolini, mais avec des armes nucléaires, quoi. Je sais, il y a vraiment quelque chose de fabuleux, quoi, à ouais. faire. Tu vois, tu le vois marcher dans le désert avec ses compagnons, il récite.
Mais il y a des trucs pasoliniens un peu en plus dans les, ouais. dans les choix des costumes et un peu désert.
Et j'aurais vraiment aimé voir Chalamet là. Habité par la religion, tu vois. Il marche dans le désert avec ses compagnons, il récite des versets de la Bible, et puis après il va défoncer des gens avec des armes atomiques. Tu vois, il y a quelque chose de profondément. Tu vois, il y a un truc à faire.
Oui, non, mais tu l'auras peut-être dans le 3, hein, puisque c'était encore une bande-annonce.
Ouais, mais.
Mais ça y a en plus.
Ouais,
ah, ouais, c'est pas d'une.
Ouais, peut-être, 3. Peut-être. Mais bon, je. S'il adapte pleinement le livre, c'est pas ce qui va se passer. Mais je trouve ça dommage qu'il l'exploite pas. On le voit un peu dans la dernière demi-heure. Toujours, ça concerne la dernière demi-heure. Mais.
Allez-y pour la dernière demi-heure, en fait, arriver avec 2h40.
Mais ouais, franchement, vous ne ratez pas grand-chose.
Vous verrez Paul qui devienne fou. Et,
c'est un peu ça.
Putain, j'ai noté la même phrase. J'ai noté Paul et sa mère deviennent fous.
Voilà. Et ben. On peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. D'ailleurs, petit fun fact pour vous, auditeuristes, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris très récemment, mais Alejandro Jodorowsky aurait voulu en réaliser un de Dune avec le casting est juste fou. Je vous le lis alors que j'ai Wikipédia sous les yeux. Salvador Dali dans le rôle de l'empereur. Wow. Amanda Lear dans le rôle qu'a Florence, sa fille. Orson Welles dans le rôle du baron Harkonnen. Alain Delon comme Duncan Idaho. David Carradine. Voilà. Mick Jagger dans le rôle de Austin Butler. Et Dali demandait d'être payé 100 000 $ par heure, ce qui avait, avait donc été réglé en. Il avait une heure de tournage. Puis finalement, tout ça est tombé à l'eau, mais il y a un documentaire là-dessus sur Arte en ce moment.
Oui, mais c'est assez
C'est très très frustrant que ce film n'existe pas en vérité. J'aurais.
Parce qu'un truc qu'on n'a pas assez dit aussi, je trouve, là, c'est qu'il a quand même. Enfin, il se paye un casting 3 étoiles.
Oui.
Et qu'il y en a la moitié, tu les vois à moins de 3 minutes, quoi. Genre vraiment. Genre, oui. Christopher Walken, il est sous-exploité de fou.
Anna Taylor-Joy qui a.
Mais
Anna une minute.
Joy, je sais pas combien elle a pris sur le film, mais c'est le meilleur business de tous les temps. Parce que vraiment, elle a une seconde.
Je joue un fœtus.
Et tu vois son visage une seconde, le reste, elle parle même pas, je crois. Enfin, bref, c'est j'espère qu'on la verra dans le 3. Mais même Florence Pugh est très, très discrète. Léa Seydoux, pareil, elle est là 2 minutes, ça sert pas à grand chose. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, globalement. C'est un autre gâchis, je trouve, du film. Et ça rejoint ce que je dis sur le fait qu'il ne sait pas exploiter ses acteurs.
Voilà. Eh bien, c'est la conclusion sur Dune 2. On ne se sera pas réconcilié autour de cette table. En tout cas, c'est en salle depuis le 28 février. Et allez-y, parce que ce soit ou non pour en dire du mal ou bien pour en dire du bien, c'est mieux de le voir sur grand écran, même si c'est pour l'oublier. Oui. Vraiment, je pense qu'autrement, on y perd beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas revu le premier. Je sais pas si je le verrai. Voilà. Avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Alexia.
Moi, pour ma part, je recommande le film Madame de Sévigné, que j'ai vu du coup récemment, qui est en salle en ce moment. Donc, surtout pour ceux qui ont passé le concours l'année dernière, ça vous rappellera de délicieux souvenirs. C'est un film, je trouve, qui est assez intéressant à voir si on a lu L'aide de Madame de Sévigné. Après, disons que l'idéal, c'est d'y aller avec les anciens préparationnaires. Il va y avoir beaucoup de discussions après le visionnage du film, je pense.
Très bien, on en parle la semaine prochaine. Hein, donc, ce sera l'occasion de faire cette discussion dont tu parles. Le conseil de Nathan.
Moi, ça va être très rapide. Je veux juste conseiller du coup le Dune de Lynch.
J'avais fait la même chose.
Parce que je trouve qu'il réussit là où... partout où Villeneuve... réussit pas trop alors je sais pas s'il plaît, enfin je suis pas sûr qu'il plaise autant à la fanbase du bouquin,
je crois qu'il est mieux accepté. Okay. Enfin, moi je l'adore en tout cas, hein.
Ah, parce que moi j'ai passé mon week-end à m'écharper avec des gens qui je disaient pas, le Dune de Villeneuve il est trop bien par rapport
mais les gens prennent trop au sérieux un livre de Herbert écrit dans les années 60 que je répète pas très bien fait, mais le Lynch est vraiment top, enfin, si vous voulez voir Sting torse nu en slip moulant, qui joue le rôle de Butler.
Ouais, c'est-à-dire que voilà, je sais pas si c'est une bonne adaptation, mais ouais, je sais pas si c'est une bonne adaptation, mais c'est vraiment un excellent film pour le coup.
Bah du coup la même chose, hein, je
très bien.
J'ai renforcé le propos.
Parfait, mon conseil à moi, il ne vous reste que quelques jours pour y courir, c'est l'exposition qu'il y a sur Elliot Erwitt à la Sucrière en ce moment, donc juste à côté à la Confluence, qui se termine le 17 mars. Sa présence dans le comptoir du cinéma, se justifie parce qu'il fait quelques portrait de vedettes de cinéma, d'acteurs, d'actrices, notamment un très très beau portrait de Marilyn Monroe qui déconstruit vraiment l'iconographie qui en a été faite. Au-delà, c'est vraiment genre une vision qu'on peut saluer, comme on parle souvent des visions des réalisateuristes ici, c'est hyper appréciable d'aller voir ce travail, genre d'artiste intelligent, plein d'humour, pour les instants de vie qui sont saisis avec une vraie affection pour les sujets de la photo. Allez-y pour tous les chiens qui y sont, et c'est moi qui déteste les chiens qui vous le dit. Bon. C'est une immersion exceptionnelle dans l'œuvre d'un artiste, dont les positionnements esthétiques sont révélateurs d'une éthique forte. C'est vraiment très très bon, courez-y. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Alexia, Nathan, Antoine, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour le 20e épisode de l'émission. On y parlera donc de Madame de Sévigné, entre autres, pour le plus grand bonheur des primo et les sages. Comme d'habitude, ce sera sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Sur Transistor et sur vos plateformes, ne manquez pas non plus d'aller jeter un œil ou une oreille, et puis de l'écouter en fait, à l'épisode hors série sorti aujourd'hui mais enregistré la semaine dernière autour du cycle VSS de Champs Libres. Une très belle table ronde en compagnie de Nathan et de Lucie Lambert pour le comptoir, d'Emma pour Champs Libres, d'Adèle pour les salopettes et de Christine Détré qui est prof ici de sociaux. De quoi bien occuper votre semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en donne besoin, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.